Vous écoutez, on lit pour vous.
Des oiseaux à sauver par milliers, vitrage anti-collision. Un texte d'André Laroche paru le 2 mars 2024 dans la presse. Le changement d'apparence du complexe fédéral Place du Portage 3 à Gatineau fera une différence de vie et de mort pour des milliers d'oiseaux. Ce haut lieu de la fonction publique canadienne subit actuellement une cure de jeunesse qui s'étirera jusqu'en 2027. Ces grandes façades de béton et de bandeaux de fenêtres, typiques du modernisme du tournant des années 1970, disparaîtront au profit d'élégantes surfaces vitrées arborant un motif architectural en verre dépoli. Ce motif composé de lignes verticales est inspiré des chutes de la chaudière située tout près des lieux, explique Mélanie Dupuis, architecte associée au cabinet montréalais Provencherois, qui pilote ce projet avec la firme Perkins & Will, établie à Ottawa. Le résultat promet d'être plus esthétique, mais surtout moins dangereux pour les oiseaux sédentaires de la rivière des Outaouais et pour les espèces migratoires qui passent près du bâtiment. La menace de collision sera désormais claire devant eux. Un oiseau est incapable de percevoir un obstacle transparent devant lui. À ses yeux, il a le champ libre. Il va frapper les surfaces de verre réfléchissantes de plein fouet, ce qui est souvent fatal pour lui, indique Guillaume Martel, aussi architecte associé chez Provencherois. Nous avons donc dû imaginer des stratagèmes pour avertir les oiseaux du danger. Les dangers sont en effet bien réels. Selon une estimation fédérale, jusqu'à 42 millions d'oiseaux périraient au Canada chaque année après une collision avec un édifice. Bien souvent, ils meurent sur le coup ou subissent une blessure grave. Au mieux, ils tombent au sol étourdis et vulnérables aux prédateurs. Aux États-Unis, on estime que près de 1 milliard d'oiseaux subissent le même sort, surtout le long des routes migratoires, comme à Chicago ou à New York. Selon l'organisme FLAP Canada, voué à la prévention de ces collisions, les populations d'oiseaux auraient diminué de 3 milliards en 50 ans en Amérique du Nord. Cette importante baisse laisserait planer une menace sur la biodiversité, la pollinisation des plantes et le contrôle des ravageurs. Un verre plus clair et plus dangereux. Qu'est-il survenu pour que les immeubles deviennent de tels pièges pour la population ailée? La principale cause serait un avancement technologique dans la fabrication du vitrage, répond dans un article du Guardian publié en décembre dernier l'architecte new-yorkaise Deborah Laurel, elle-même catastrophée après avoir appris qu'un de ses projets avait causé une hausse significative de mortalité d'oiseaux dans Staten Island. Avant les années 1960, la majorité des grandes vitres utilisées pour les immeubles contenaient des impuretés et des imperfections qui obstruaient la lumière. Mais l'avènement de nouvelles méthodes de confection a permis de créer des vitres parfaitement lisses, claires et uniformes. Et surtout plus réfléchissantes, souligne Mme Laurel dans ce même article. Ce nouveau type de vitrage a frappé l'imagination des architectes qui ont multiplié, dans la seconde moitié du XXe siècle, les grands bâtiments de verre et d'acier qui se reflètent les uns les autres dans les métropoles d'aujourd'hui, ajoute-t-elle. Résultat, les oiseaux sont maintenant confondus par cette transparence impeccable des fenêtres, ou encore par le reflet du ciel, de la végétation qui entoure les immeubles, ou des points lumineux créés par l'éclairage extérieur ou intérieur. Des fenêtres anti-collision. Comment réduire cette menace pour les oiseaux sans réduire les qualités optiques du verre? Des fabricants ont répondu à cette question en proposant des traitements intégrés au verre, formant des motifs souvent très discrets à notre œil, mais facilement perceptibles pour les oiseaux. Il existe même une norme canadienne suggérée et non imposée, une trame de points espacés de 50 mm sur la totalité des surfaces vitrées situées jusqu'à une hauteur de 16 mètres qui permet une réduction efficace des collisions. Pour la place du portage 3, les architectes ont mis en œuvre tout un bouquet de stratégies. Les surfaces de verre réfléchissantes seront avant tout ornées de larges bandes translucides verticales pour atténuer les reflets de la rivière, des arbres et du ciel. Elles ont été pensées pour ne pas altérer le confort visuel des utilisateurs de l'intérieur, mais elles seront visibles pour les oiseaux, ajoute Mélanie Dupuis. Ce n'est pas tout. Un autre motif, celui-ci inspiré des aurores boréales, a été inséré dans la façade de la passerelle qui surplombe le boulevard Maisonneuve pour réduire l'éblouissement des automobilistes par les rayons du soleil. La nuit tombée, il sera illuminé par des couleurs douces qui n'auront pas d'effet sur la migration des oiseaux suivant les différentes périodes de l'année. Enfin, l'éclairage intérieur général sera aussi éteint le plus tôt possible en soirée. D'abord pour des raisons d'économie d'énergie, mais aussi pour ne pas attirer les oiseaux. C'est un enjeu qui a été considéré avec sérieux, affirme Guillaume Martel. Collision avec des édifices, des normes à Toronto et à Ottawa, mais pas à Montréal. La municipalité de Toronto impose depuis quelques années l'installation de fenêtres faiblement réfléchissantes et opaques ou ornées de motifs anti-collision à tous les nouveaux bâtiments de plus de 4 logements. Cette norme s'applique aux 16 premiers mètres au-dessus du sol. Ce règlement a été adopté après que la société Cadillac Fairview a été poursuivie pour la mort de centaines d'oiseaux migrateurs qui s'étaient heurtés à l'un de ses immeubles. Une entente est survenue après que l'entreprise a fait installer sur ses vitres une pellicule pour alerter les oiseaux. Prenant exemple sur la métropole ontarienne, la commission de la capitale nationale à Ottawa a inclus une série de mesures sécuritaires pour les oiseaux dans son cahier de normes architecturales remis à jour en mars 2023. De son côté, la ville de Montréal n'a prévu aucune ligne directrice du même genre. Une étude menée par le regroupement Québec Oiseaux il y a quelques années, a conclu que ce n'était pas nécessaire puisque le problème serait marginal par rapport à la situation à Toronto. Deux hypothèses permettraient de différencier les cas de Montréal et de Toronto. La géographie et la topographie. D'une part, les Grands Lacs créent un entonnoir dirigeant les oiseaux vers le centre-ville de Toronto. D'autre part, le Mont-Royal aurait un effet sur l'altitude de vol des oiseaux à Montréal, a indiqué l'administration municipale dans un échange de courriels. Néanmoins, plusieurs arrondissements de la ville de Montréal encadrent l'apparence des bâtiments par leur règlement de zonage afin, notamment, de limiter l'usage d'un verre ayant un taux de réflexion élevé, a-t-on précisé. Collision avec des édifices. Le danger des fenêtres de maison. Seulement 1% des collisions mortelles se produisent contre des bâtiments de grande hauteur, affirme l'organisme Québec Oiseaux. La plupart de ces collisions se produisent contre des fenêtres de résidence, à des hauteurs entre le niveau du sol et la cime des arbres. C'est pour cette raison que ces spécialistes proposent une série de mesures aux propriétaires de maisons pour réduire les risques. Recouvrir la fenêtre de motifs sur toute la surface et à l'extérieur. Installer des écrans extérieurs, des toiles solaires ou des volets. Utiliser des produits de prévention des collisions comme du ruban ou des points autocollants, des marqueurs à peinture à base d'huile, etc. Pour de nouvelles fenêtres, choisir un verre à motif sans danger pour les oiseaux ou des matériaux conçus pour la sécurité des oiseaux. Repositionner les mangeoires à moins d'un mètre des fenêtres afin de réduire le risque que les oiseaux s'y heurtent à grande vitesse s'ils fuient un prédateur. C'était « Des oiseaux à sauver par milliers, vitrage anti-collision », un texte d'André Laroche paru le 2 mars 2024 dans la presse.
Comme l'univers, la bureaucratie est toujours en expansion. Un texte de Boucard Diouf, paru le 23 mars 2023 dans La Presse. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de l'hôpital que j'attendais depuis plus d'un an. Quand j'ai décroché, j'avais l'impression d'avoir gagné le gros lot du 649. Malheureusement, après une brève discussion, mon interlocutrice m'apprenait qu'on ne trouvait plus trace de la requête de mon docteur. Pour la suite de l'histoire, elle m'a recommandé de retourner voir mon médecin de famille pour qu'il leur achemine une nouvelle demande. Pas besoin de vous dire que je n'étais pas content. Mais j'ai gardé mon calme, car des calvaires bureaucratiques, ce ne sont pas les gens pour en témoigner qui manquent au Québec. Cette décevante expérience m'a donné envie d'écrire une chronique sur la bureaucratie qui étouffe nos institutions. Cependant, avant d'arriver au cœur de mon sujet, le biologiste en moi doit vous parler d'une différence fondamentale entre végétaux et animaux. Oui, le lien entre bureaucratie et biologie végétale peut sembler bizarre, mais si vous acceptez ma proposition, je crois avoir une petite chance de vous convaincre. Je m'essaye. Les plantes, qui sont incapables de bouger, sont plus vulnérables en cas d'adversité. Pour cause, pendant que les animaux décampent vers d'autres cieux, elles sont obligées d'affronter la réalité locale, si dure soit-elle. Pour l'espèce humaine, cette vie fixée ne pouvait donc être qu'une forme de malédiction. Pourtant, les végétaux, rappelle le biologiste Stefano Mancuso, ont des acquis évolutifs qui rendraient les animaux jaloux. Par exemple, contrairement à nous, les plantes ne disposent pas d'organes vitaux individualisés. Elles n'ont pas de poumons, de cœur ou de cerveau. Leur respiration se fait au niveau de toutes les feuilles et la circulation de leur sève ne passe pas par une pompe cardiaque. Même leurs organes sexuels sont temporaires et renouvelables. Bref, l'organisation anatomique et physiologique d'une plante contraste avec celle du corps humain qui est très hiérarchisée. Dans cette pyramide, le cerveau incarne l'équivalent du grand patron. Cette compartimentation fonctionnelle nous rend plus vulnérables. En effet, si on veut tuer un humain, en plus de la tête, il suffit de viser le cœur ou les poumons, dont l'emplacement dans la cage thoracique est bien mis en évidence par la bipédie. A contrario, beaucoup de plantes peuvent perdre plus de 90 % de leur corps et revenir à la vie. Le seul fait que certains lézards puissent perdre une patte ou une queue et la régénérer nous impressionne. Pourtant, cette résurrection partielle est bien insignifiante par rapport à ce que les végétaux sont capables de faire. Cette différence fondamentale entre les végétaux et les animaux aurait influencé la vie humaine au-delà de notre physiologie. Dans son bouquin intitulé « Nous et les plantes », M. Mancuso raconte que cette structure pyramidale du corps humain a aussi influencé l'organisation de nos sociétés à tous les niveaux. Autrement dit, dans nos administrations, nos armées, nos entreprises et bien d'autres institutions, nous reproduisons inconsciemment cette organisation hiérarchisée qui nous semble plus efficace. Pourtant, la bureaucratie pyramidale est souvent un haut lieu de lenteur et d'inefficacité. Pour cause, ce sont les maillons les plus faibles de la chaîne qui y déterminent la performance globale. En arrière de cette efficacité à plusieurs vitesses, il y a aussi le fameux principe de Peter. Cette idée, formulée par le pédagogue canadien Lawrence Johnston Peter, en 1969, dit que les membres d'une structure hiérarchique tendent à devenir de plus en plus incompétents avec le temps. Même dans une véritable méritocratie, à cause du jeu de chaises des promotions, cette marche vers l'incompétence systémique est inévitable. En cause, Déposer une tortue sur une muraille n'en fait pas un grimpeur naturel. Si la méritocratie hiérarchique n'échappe pas au principe de Peter, dit Stefano Mancuso, imaginez maintenant ce qui se passe quand le favoritisme, les amitiés et les pistons embarquent dans la balance et influencent les promotions. Le degré d'incompétence d'un tel système sature rapidement et les blocages se multiplient à tous les niveaux. À ces facteurs aggravants, on peut ajouter le culte de l'ancienneté et la part des lèche-bottes dont la devise est « Si tu ne peux obtenir la promotion en grimpant les échelons, essaye en lichant le patron. » Aussi, lorsqu'un patron se sent imposteur, il arrive souvent qu'il engage, comme subalterne, un faire-valoir plutôt qu'un esprit compétent qui pourrait chaque jour lui rappeler douloureusement qu'il brille d'une lumière empruntée. Enfin, à ces pièges déjà nombreux, il faut ajouter l'imparable grossissement, car, comme l'univers, la bureaucratie est toujours en expansion. Comparable à un trou noir, elle peut aussi absorber des budgets astronomiques sans mener à une amélioration concomitante des services à la population. Pensez ici au système de paye Phoenix, au chaos dans la gestion de l'immigration, à la saga Arrive Cannes, à celle des passeports et des aéroports, etc. Malgré les sommes énormes englouties dans de nombreux programmes gérés par une armada de fonctionnaires et la gigantesque dette accumulée, l'incompétence du gouvernement Trudeau à livrer des services efficaces à la population défie continuellement la chronique. Au Québec aussi, de semblables engrenages bureaucratiques ont transformé le système de santé en gouffre financier sans fond à l'efficacité très douteuse. Sans s'attaquer à cette pieuvre, même si on y mettait 80 % de nos deniers publics dans ce ministère, l'inefficacité y resterait endémique. Disons ironiquement que si dans une organisation efficace, il faut un cadre pour surveiller 9 travailleurs, la bureaucratie tend vers un modèle où 9 cadres veillent sur un travailleur. Or, pour paraphraser Coluche, une bonne partie de cette hiérarchie-là est semblable à des étagères. Plus c'est haut, moins ça sert. En 2018, dans un livre très provocateur intitulé « Bullshit Jobs », l'anthropologue David Graeber posait un regard très sévère sur ces emplois qu'il considère comme inutiles et même nuisibles dans nos sociétés, y compris les étagères les plus poussiéreuses d'en haut. Pour ne pas heurter des sensibilités, je ne donnerai pas ici la liste des domaines mentionnés dans le livre. Permettez-moi néanmoins de résumer sa définition de ce que sont les « bullshit jobs ». Ce sont, dit-il, des emplois rémunérés qui sont si inutiles et superflus que même les salariés qui les occupent ne parviennent pas à justifier leur importance. Cependant, ces employés vont tous les jours au travail et arrivent même à se convaincre qu'ils ont tort de douter de la pertinence de leur poste. Dans un sondage réalisé par la firme YouGov en 2015, 37 % des travailleurs britanniques interrogés reconnaissaient que leur emploi n'apportait aucune contribution au reste de la société. Nos institutions croulent sous cette omniprésente bureaucratie et aucune révolution ne pourra améliorer leur efficacité sans tacler le problème à la source. Souhaitons tout de même bonne chance à Christian Dubé pour que Santé Québec, sa méga-structure hiérarchique à venir, échappe à tout ce que je viens de raconter. Ce ne sera pas facile. J'ai entendu récemment Gilles Duceppe, paraphrasant la vision de Jean-Baptiste Lamarck, dire qu'en biologie, c'est le besoin qui crée l'organe Et dans la bureaucratie, c'est l'organe qui crée le besoin. Tout ça pour dire qu'on gagnerait peut-être à s'inspirer du système décloisonné des plantes qui est bien plus résilient que notre modèle hiérarchique et bureaucratique. Je fais cette proposition, mais comme je ne suis pas non plus certain de la pertinence de ce que je fais dans la vie, je n'ai aucune idée de la façon de mener cette révolution. Je dois même admettre que l'écriture de ce texte a été un peu motivée par mon rendez-vous hospitalier, mystérieusement manqué, car même si je suis pour le dégraissage, je suis loin d'être un libertarien. C'était « Comme l'univers, la bureaucratie est toujours en expansion ». Un texte de Boucard Diouf, paru le 23 mars 2024 dans La Presse.
L'attraction quantique de Sherbrooke, un texte de Jean-Louis Bordeloux, paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir. L'industrie du savoir profite à Sherbrooke en misant depuis quelques années sur des incubateurs d'entreprises, un institut quantique et des technologies de pointe, la reine des cantons de l'Est, a renversé l'exode de ses cerveaux pour devenir un aimant à scientifiques. Visite de l'un des creusets technologiques du Québec. Amireza Ataï a décidé en 2021 de lancer son entreprise de technologie de pointe, Kemia Discovery. Parmi tous les instituts de recherche quantique du monde, il a choisi celui de l'Estrie pour s'implanter. Si tu me demandes pourquoi j'ai choisi Sherbrooke, c'est à cause de cette machine-là, explique cet Iranien d'origine. Le petit cylindre de métal n'a l'air de rien, mais un écriteau rappelle qu'il n'est pas aussi inoffensif que l'on pourrait croire. « Danger, champ magnétique puissant », lit-on en jaune et noir. Le curieux engin provoque la cohabitation d'un champ magnétique extrême, 20 000 fois plus qu'un aimant de réfrigérateur, et d'un froid tout aussi extrême, autour de moins 273 degrés Celsius. On teste dans ce tube des prototypes de supraconducteurs ou de liquides de spin, des matériaux au nom aussi futuriste que leurs propriétés. Dès notre départ en affaires, on voulait découvrir nos matériaux quantiques, explique le scientifique devenu entrepreneur. Il y a des applications traditionnelles de matériaux comme l'imagerie médicale, les trains à lévitation magnétique. Un exemple intéressant, c'est de trouver des matériaux qui absorbent le dioxyde de carbone, CO2, de l'atmosphère et qui, en plus de ça, possèdent les propriétés physiques de faire bouger le CO2 à l'intérieur de sa structure cristalline. Autrement dit, on peut développer des filtres qui ne s'épuisent jamais. On formait les meilleurs, mais on les exportait partout sur la planète. Pourquoi ne pas le faire ici? Dit Christian Sarah Bournet. Ces cristaux, presque magiques pour le commun des mortels, naissent grâce à son talent, mais aussi au soutien de l'Institut quantique, IQ, de l'Université de Sherbrooke. Une quinzaine de compagnies différentes gravitent autour de ces équipements de pointe. Ces entreprises possèdent des racines à Vancouver, en Irlande, en France. Une entreprise coréenne et une autre espagnole devraient aussi bientôt s'installer dans les environs, a appris Le Devoir. Selon M. Ataï, environ 30 % de ses collègues proviennent déjà de l'extérieur du pays. Sortir du laboratoire. Fabriquer des matériaux quantiques en laboratoire n'est pas tout. Encore faut-il les vendre. Pour y arriver, l'entreprise d'Amireza Ataï compte sur l'accélérateur de création d'entreprises technologiques, A7. L'équipe a aidé plus de 150 entreprises à se lancer en une décennie d'existence, souligne en entrevue Ghislain Goulet, président-directeur général de cet incubateur. Depuis 2010, on a vu naître beaucoup de jeunes pousses. Sherbrooke est vraiment en train de faire un virage vers une économie de valeur ajoutée. La proximité de Sherbrooke avec les États-Unis permet à bien des industries d'entamer leur croissance en Nouvelle-Angleterre, là où se trouve un grand bassin de clients, souligne-t-il. De toute façon, se tourner vers l'extérieur du Québec est pratiquement incontournable dans l'industrie du savoir, tant pour recruter de la main-d'œuvre que pour trouver de nouveaux clients. Les premiers clients de technologie sont souvent au Québec, mais en quantique, c'est souvent de grands groupes qu'on n'a pas au Québec. La quantique, ça se passe beaucoup par l'international. Du savoir de partout. Peu d'unanimité émerge dans le domaine quantique, mais une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est la pénurie de talents, selon le directeur de l'IQ, Christian Sarah-Bournet. Ce dernier a contribué à mettre sur pied cet institut en 2016. On formait les meilleurs, mais on les exportait partout sur la planète. Pourquoi ne pas le faire ici, se rappelle-t-il. Depuis, l'exode est devenu attraction. Aujourd'hui, près de 60% des 250 étudiants de l'Institut quantique proviennent de l'extérieur du Canada. On commence à avoir des processeurs quantiques de plus en plus puissants, dit-il. Ça nous prend des bons programmeurs parce que c'est vraiment une nouvelle façon de faire de la programmation. La réputation de chercheurs de renom comme Louis Taillefer pèse aussi beaucoup dans cette capacité d'attraction. C'est du moins ce qu'affirme Amireza Hatay. En Iran, je suis allé sur Google et j'ai cherché des publications scientifiques dans le domaine de la recherche de matériaux quantiques. Louis Taillefer fait partie des 10 premiers chercheurs cités et des 3 ou 4 chercheurs vivants. Ça m'a conduit à choisir Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke ne néglige pas pour autant la place des étudiants d'ici dans la croissance de l'industrie du savoir. Un nouveau baccalauréat a vu le jour en 2022, spécifiquement en sciences de l'information quantique, le premier du genre au monde. On commence à avoir des processeurs quantiques de plus en plus puissants. Ça nous prend des bons programmeurs parce que c'est vraiment une nouvelle façon de faire de la programmation, indique M. Sarah-Bournet. Presque 80% des étudiants qui décrochent un diplôme dans le domaine quantique à l'Université de Sherbrooke finissent par travailler en entreprise. Le reste demeurera dans le giron universitaire. C'était « L'attraction quantique de Sherbrooke », un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir.